Paul Bourget, Une nuit de Noël sous la terreur. Le hasard d'une villégiature à Nemours m'avait amené à visiter un château bien connu de tous ceux qui s'intéressent à l'architecture du XVIe siècle en France, celui de Fleury-les-Tours. On l'a nommé ainsi pour le distinguer de l'autre Fleury, célèbre par le séjour du prétendant Charles-Édouard, et qui dresse dans le voisinage de Courance sa jolie construction de briques. Je n'ai pas l'intention de discuter le point controversé entre archéologues si ce charmant bijou de pierre, construit par les ordres du premier duc de Fleury, le favori de Louis XII, a servi de modèle à cet autre bijou qu'il reproduit quasi exactement et qui est à zèle rideau, ou si c'est l'inverse. Je ne discuterai pas non plus cet autre problème débattu indéfiniment dans les clubs. Le propriétaire de Fleury-les-Tours a-t-il vraiment le droit de s'appeler le duc de Fleury tout court, comme le jeune héros d'Ainadel? La contestation dure avec l'autre branche de la famille depuis quelque 150 ans. Que son titre soit ou non très authentique, l'actuel duc de Fleury le porte de manière à justifier toutes ses prétentions. Il emploie admirablement une très grande fortune héritée de sa mère, fille elle-même d'un de ces gentilshommes verriers dont une tradition plusieurs fois séculaire se perpétue dans nos départements du Nord. Le duc a eu le bon esprit de ne pas confier à des intermédiaires la gérance de ses intérêts, et 40 ans durant, il a dirigé en personne les vastes usines qu'il possède près de Saint-Quentin. Son fils aîné s'en occupe maintenant. Ce maniement direct de ses propres affaires a eu ce résultat que le châtelain de Fleury-les-Tours appuie ses prétentions sur 1200 000 francs de revenus sans mésalliance, et le château est habité aussi noblement que le méritent les sculptures de ses portes et les meneaux de ses fenêtres. Le seigneur de cette exquise et grandiose demeure en a un très légitime orgueil. Ceci soit dit pour expliquer comment il avait tenu, m'ayant rencontré chez des amis communs, à m'en faire les honneurs, malgré mon manque absolu de compétences dans la partie où il excelle. Il a réuni là une collection d'armes à rivaliser celle du palais royal de Madrid. Un trait définira la parfaite politesse de ce vrai gentilhomme. Durant la visite à laquelle je fais allusion, il m'épargna le détail de son musée et un autre trait encore définira l'incompétence que je viens d'avouer. De toutes les pièces incomparables éparses dans les appartements du château, que dis-je de tout le château lui-même, je ne me rappelle vraiment qu'une petite toile suspendue dans la chambre à coucher du maître du logis, et cela moins pour elle-même, quoique ce soit une excellente peinture d'un maître anonyme du XVIIe siècle français, qu'à cause de l'anecdote qui s'y rattache. Cette prédominance de l'intérêt moral sur la beauté et le pittoresque distingue l'écrivain de l'artiste, heureux quand cet intérêt emporte avec lui, comme ce fut le cas, un enseignement. Ce tableau, devant lequel je tombais aussitôt en arrêt, représentait un sujet bien banal, une nativité. La peinture avait la solidité qui décèle un fer très exercé, cette minutie forte dont la valeur reste indiscutable à travers les variations du goût. Le Saint-Joseph, la Vierge, le bœuf, l'âne, l'enfant sur la paille, était traité avec une robustesse de touche où se reconnaissait l'influence de Philippe de Champaigne et une précision apprise en Flandre. Jusqu'ici, pourtant, rien que d'ordinaire. Mais un détail d'une extrême originalité trahissait dans cette création d'un excellent ouvrier une imagination de poète. La selle était placée, comme d'habitude, dans une pauvre étable éclairée par une fenêtre dont le châssis se composait de deux barreaux coupés l'un par l'autre à angle droit. L'ombre de ce châssis se projetait sur le mur du fond, de telle manière qu'une croix se dessinait sur le crépi blanc, démesurée, fantomatique et pourtant distincte. La base de cet instrument du futur supplice posait juste au-dessus du berceau de l'enfant divin, endormi si doucement. Entre cette croix et ce sommeil, entre cette menace et cette sécurité, le contraste était assez poignant pour qu'il suffît seul à retenir l'attention. Et j'avais un motif pour être intéressé doublement par ce tableau. Je venais, en le regardant, de le reconnaître. Oui, j'avais déjà vu cette disposition des personnages et ce reflet du châssis de fenêtre projeté en croix sur le mur blanc du fond. Un nom me vint aux lèvres que je prononçais très étourdiment. Il est rare qu'un collectionneur m'ait possédé un objet dont une réplique existe, et les quelques autres apôtres de Aurélia prouvaient que le duc, spécialisé dans les armes, ébauchait aussi un tout petit commencement de galerie. « Mais votre mémoire vous sert très bien, me répondit-il. Une copie de ce tableau existe en effet chez Madame de... » Il répéta le nom que j'avais dit et qu'il est inutile de transcrire ici. « Oui, ce sont des cousins à moi. Vous auriez pu en voir une autre chez les... » Je ne transcris pas non plus cet autre nom. « Et une autre chez les... » Ceci est l'original que mon grand-père a laissé par testament à l'aîné de ses quatre enfants, qui était mon père. Il a voulu que trois autres copies fussent faites pour mes deux oncles et ma tante. Madame de... ne vous a pas dit pourquoi ? Et sur ma réponse négative, ben c'est naturel, reprit-il avec une amertume hautaine. Quand on a consenti à servir la Révolution... Certains souvenirs font honte. Le père de Madame de a été, en effet, dans la diplomatie sous Napoléon III. J'ai oublié d'indiquer que le duc Verrier est un de ces légitimistes intransigeants auxquels il a fallu l'ordre du prince qui dort à Göritz pour qu'ils acceptassent la fusion. Mais je n'ai pas les mêmes motifs pour vous taire. L'épisode qui donne à ce petit tableau la valeur d'une relique de famille. Vous me permettrez de vous offrir la petite plaquette où j'ai fait inscrire le passage du testament de mon grand-père dans lequel il explique cette volonté. Vous lirez ces pages en vous en allant. Elles seront toujours aussi intéressantes qu'un article de journal. Et du train dont nous allons, elles risquent fort de ressembler à ce que vous lirez dans les journaux de demain. Le possesseur de cette nativité s'était-il trompé en m'annonçant un récit aussi saisissant que l'idée même de cette toile associée à une crise décisive de l'histoire de son aïeul? Le lecteur va être à même d'en juger, car le duc m'ayant donné la permission d'utiliser ce document, je prends le parti de le copier tel quel. Par les époques troublées comme celles que nous traversons, il est toujours sain de se rappeler quelles terribles épreuves l'expérience de certaines doctrines sociales a imposées aux destinées privées. Il n'y a pas beaucoup plus d'un siècle. Ce n'est pas une raison pour croire, comme M. de Fleury, à des identités d'événements qui ne se reproduisent guère. La commune, cependant, est trop près de nous pour que les sentiments traversés par les hommes qui ont vécu sous la terreur nous soient tout à fait étrangers. Ce récit a donc des chances pour offrir un certain intérêt d'actualité. Le voici sous le titre que le duc lui avait donné. Note laissée par mon grand-père pour son fils aîné et qui explique le codicille de son testament relatif à un tableau d'auteur inconnu représentant une nativité. À partir de maintenant, c'est donc le duc de Fleury de 1793 qui tient la plume. Quoique 40 ans se soient écoulés entre le jour de Noël où j'écris ces lignes, 1833, et celui dont je veux retracer l'angoisse, 1793, aucune des émotions traversées alors ne s'est effacée de mon esprit. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour revoir distinctement une plaine blanche de neige, entre des montagnes, une route presque déserte, où de rares piétons et de plus rares cavaliers cheminaient sous un ciel livide, dans lequel le soleil découpait un disque rouge. Je revois une voiture roulant à travers ce morne paysage, sinistre comme l'atmosphère qui planait alors sur la France. Ce véhicule, cahoté sur un sol dont le ravinage dénonçait l'incurie de la Révolution, emportait un jeune homme de 30 ans et une jeune femme de 20. Cet homme, mon fils, était votre père, cette femme était votre mère. Elle était à la veille de vous avoir. Son état de grossesse avancée lui rendait ce voyage si douloureux qu'à chaque secousse ses traits se décomposaient, comme si elle allait mourir. Ses paupières se fermaient sur ses prunelles mouillées de larmes. Puis la volonté de ne pas ajouter à mes anxiétés était la plus forte. Elle trouvait le courage de me sourire et elle me disait « Ne vous tourmentez pas, mon ami, dites au cocher de pousser les chevaux. Dieu qui nous a protégés depuis notre départ ne permettra pas que nous échouions au moment de l'arrivée. » Il était en effet assez extraordinaire que nous eussions parcouru sans être inquiétés la distance entre Fleury-les-Tours et la petite ville de la Franche-Comté dont nous approchions. C'était Morteau, à 8 lieues seulement de Locle, à moins d'une journée de la Chaux-de-Fonds et de la Suisse. Nous nous étions décidés à choisir pour sortir de France ce chemin détourné, après avoir pris ostensiblement la route naturelle, celle de Châlons et de Nancy. Je me souviens, tandis que nous avancions péniblement, glacés par le froid de cet après-midi, dans notre voiture achetée d'occasion et à peine close, épiant, sans en avoir l'air, la physionomie de chaque passant, avec quel remords je me reprochais de n'avoir pas émigré plus tôt. Ce n'est pas que je me fusse laissé endormir, comme tant d'autres, par les illusions des insensés de la nuit du 4 août. J'avais toujours pensé que la tempête déchaînée sur le pays serait sans pitié et qu'elle pouvait me frapper aussi, moi et les miens. Mais en 91, j'avais rencontré Madame de Miossens, j'en étais devenu amoureux et je n'étais pas parti. Henriette n'avait plus son père, elle habitait avec une mère malade au petit château, pas très éloigné du mien. Je m'étais tout de suite considéré comme le protecteur de ces dames. D'ailleurs, ni elle ni moi n'avions été encore menacés. J'avais demandé la main d'Henriette, nous étions fiancés, puis mariés. Ces événements nous avaient menés, de semaine en semaine, jusqu'à ce terrible mois de janvier où le procès et l'exécution du roi inaugurèrent vraiment cette crise d'universelle consternation, si bien nommée la terreur. Dès que j'eus appris cette affreuse nouvelle, j'avais dit « Oh, il faut partir !» À ce moment même, Madame de Miossens étant devenue plus souffrante, la paralysie la rendait intransportable. Nous étions restés. Je n'avais pas eu le courage de démontrer à sa fille qu'en agissant ainsi, nous nous perdions sans espérance de sauver sa mère. La malade était morte en août. Redevenus libres, nous avions remis de partir cette fois en constatant que Fleury continuait d'être ignoré par les Jacobins de Nemours. Il en était de lui comme il en fut de Dampierre et de quelques autres demeures seigneuriales situées un peu à l'écart et dans des contrées où ne se trouvait aucun meneur très énergique. Or, les lois sur les biens des émigrés étaient implacables. Nous ne possédions d'autres fortunes que nos deux châteaux et leurs dépendances. À la veille d'avoir son premier enfant, Henriette avait hésité à le ruiner d'avance. Elle était extrêmement pieuse. Elle avait voulu voir une protection de la Providence dans la tranquillité exceptionnelle où nous venions de vivre. J'avais cédé à son désir de ne pas quitter notre manoir. Ah, combien je me le reprochais maintenant. Un coup de foudre nous avait réveillés de cette folle sécurité. Un représentant du peuple avait débarqué à Nemours un matin. Il s'était fait remettre la liste des propriétaires de la ville et des environs. C'était une table de proscription toute dressée. Un vieux serviteur de ma famille avait appris que des mandats d'amener allaient être lancés contre les suspects, et naturellement contre moi d'abord. L'urgence du péril n'avait plus permis d'hésitation. C'est ainsi que nous nous trouvions sur la route de Suisse par cet après-midi de la fin de décembre. Un passeport au nom du citoyen et de la citoyenne Chardon, procuré par le fidèle avertisseur, nous avait permis de franchir sans trop de difficultés les étapes de ce long et dangereux voyage. Ce papier, revêtu du timbre de la municipalité de Nemours, me qualifiait de citoyen suisse retournant dans son pays à cause de la santé de sa femme. La grossièreté de cette ruse en avait jusqu'ici fait la réussite. Il ne s'était rencontré personne pour imaginer qu'un duc de Fleury n'eût pas pris plus de précautions pour dépister les limiers lancés à ses trousses. À l'approche de la frontière, ce misérable chiffon de papier suffirait-il? C'est la question que je me posais avec une épouvante grandissante, tandis que je cherchais de l'horizon la silhouette de cette petite ville de Bordeaux, où allait se jouer le dernier acte du drame de notre salut. Vers 4 heures, elle commença de se dessiner sur le ciel, maintenant presque noir. La masse sombre des maisons prenait une physionomie si étrangement sinistre que mon appréhension d'affronter là un dernier examen de mon faux passeport devint intolérable. Le désir d'y échapper me suggéra l'idée la plus évidemment déraisonnable que je puisse concevoir. « Vous sentez-vous assez bien pour marcher 2 heures ?» dis-je à ma compagne. « Oui, » répondit-elle avec une expression dans les yeux qui aurait dû m'avertir. Mais dans ces fièvres de fuite, on ne veut rien reconnaître de ce qui contrarie les projets où l'on aperçoit une issue possible. Mais ce sera le dernier effort, Brigitte, il est nécessaire. En même temps, par des coups frappés contre la vitre, j'avertissais le cocher d'arrêter. J'avais engagé ce gros garçon sur sa mine Nigaud à Dijon en achetant la voiture. Qu'avait-il pensé de la qualité des voyageurs qu'il conduisait ainsi? Je me l'étais souvent demandé, et je n'ai peut-être comporté de manière à dissimuler de mon mieux ses soupçons, s'il en avait. Il était insensé, presque au terme du voyage, de démentir d'un coup cette attitude. C'est pourtant ce que je fis en descendant de voiture à une demi-lieue peut-être de Morteau, en lui disant « Je n'ai plus besoin de vos services, mon ami. Ma femme et moi préférons continuer la route à pied. La voiture est à vous, avec les chevaux, et ceci par-dessus le marché. » Je lui mettais dans la main un rouleau de louis. « Si vous partez tout de suite de ce côté, » je lui montrais la route par laquelle nous étions venus. « Sinon... » Et j'avais tiré de ma poche un pistolet que j'armais d'un geste si déterminé que le malheureux se mit à trembler de tous ses membres. « Je vous obéirai, monsieur, » répondit-il, « je vous obéirai. » « C'est à l'instant qu'il faut partir, » insistai-je. « J'ai votre nom, je vous écrirai l'endroit où vous devrez faire adresser les objets qui restent dans la voiture. Si dans 6 mois vous n'avez rien reçu, tout est à vous. » L'homme balbutia un remerciement. Il m'aida, d'une main qui continuait de trembler, à mettre sur mes épaules une espèce de havre-sac qui contenait quelques effets indispensables. J'avais dans ma ceinture une dizaine d'autres rouleaux d'or et des diamants. Il remonta sur son siège, sans presque oser me parler. Je tenais toujours à la main mon pistolet levé. Les chevaux tournèrent, dans l'accablement de bêtes fatiguées qui comptaient si bien toucher à l'écurie. Mais leur conducteur était si impatient de n'être plus à la portée de mon arme qu'il trouva le moyen de les mettre au grand trot. Madame de Fleury et moi, nous étions seuls. Nous n'avions plus qu'à marcher en contournant la ville pour arriver en Suisse. Elle me dit « Je suis prête ». Et nous commençâmes à nous diriger vers Morteau, avec l'intention d'obliquer par le premier sentier à droite ou à gauche pour rejoindre la grande route de l'autre côté. Nous n'avions pas fait 500 pas que le ralentissement de la démarche de ma compagne me prouva que son énergie avait préjugé de ses forces. Encore 500 autres pas et elle s'arrêta. Elle dit « Oh, je n'en peux plus !» et se laissant tomber sur une pierre, elle éclata en sanglots. « Oh, je ne peux plus, je souffre trop !» répétait-elle. Ses mains s'étaient portées sur sa ceinture. Quoiqu'elle fût enveloppée d'un manteau où la déformation de son pauvre corps était trop visible pour que cette exclamation et ce geste ne donnassent pas à ce cri de douleur la signification d'une menace à laquelle je n'avais pas voulu songer. Henriette était tout près d'achever le 8e mois de sa grossesse. Si elle allait accoucher avant terme là, sous cette bise froide, sur cette neige gelée, loin de tout secours, j'essayais de la soulever de terre pour l'emporter, vers la ville, dont la silhouette, toujours dressée, sur l'horizon, m'avait épouvanté tout à l'heure, et maintenant, elle m'apparaissait comme l'asile, ou du moins ma bien-aimée, et aurait un toit pour protéger sa chair frissonnante, un lit pour étendre ses membres secoués par le grand travail, des langes pour recevoir notre enfant s'il devait naître. J'étais robuste alors et jeune. Je lui demandais d'assumer ses bras autour de mon cou et je marchais encore 200 pas avec cet adoré fardeau. Et puis je sentis moi-même ma vigueur défaillir. Je dus m'arrêter à mon tour. « Tu vois bien, » reprit-elle, quand je lui reposais à terre, d'une voix si basse que je l'entendais à peine, elle n'avait même plus la force de parler, « Tu vois bien que c'est impossible. Embrasse-moi, mon ami, et dis-moi adieu. »« Oui, adieu, » répéta-t-elle, en séparant les deux mots, « laisse-moi lui qui me sauvera s'il veut me sauver. » Et s'il ne le veut pas, il sait pourquoi, et je ferai mon sacrifice. Mais toi, va-t'en, va-t'en, mon amour, qui ne te prenne pas, qui ne te lie pas tes chères mains, qui ne te... » Le geste passionné par lequel elle serra ma tête contre son cœur, je m'étais mis à genoux devant elle pour essayer de l'apaiser, avec une horrible éloquence. Elle voyait la guillotine et le couperet. « Alors, adieu, et va-t'en. »« Non, lui répondis-je, je ne te quitterai pas. Mais que faire, que faire ?»« Partir, insista-t-elle, leur échapper, toi du moins. »« Oui, m'écriai-je, mais avec toi, écoute. » Un petit bruit de grelot se faisait entendre au loin. « C'est une voiture qui approche, notre homme revient pour aller nous dénoncer. »« Ah, si c'était lui !» « Oh, mais qui que ce soit, il faudra bien qu'il nous prenne. » Ainsi, moins d'une heure après avoir renvoyé au risque de nos vies une voiture qui était à moi et un cocher dont j'étais presque sûr, j'allais arrêter, comme un voleur de grand chemin à la nuit tombante, l'équipage d'un voyageur inconnu avec lequel je devrais sans doute me battre. La cohérence de mes résolutions dans des circonstances si graves eût mérité un châtiment. Il me fut épargné. Ce voyageur se trouvait être une femme d'un certain âge qui conduisait à la ville au trot d'un mauvais bidet, non sans redouter elle-même une mauvaise rencontre, une carriole chargée de légumes. 5 minutes de conversation suffirent pour qu'elle devinât la vérité. Montez, madame, dit-elle à Henriette, après les premiers pourparlers, et vous aussi, monsieur. Mais ne répondez pas à la barrière. On reconnaîtrait que vous n'êtes pas d'ici ni de Suisse, ajouta-t-elle. Je dirais que vous êtes des cousins à moi, et je vous mènerai chez ma sœur qui vous logera. Son maître lui a recommandé, avant de partir, de recueillir tous les ci-devant qui passeraient. J'aime à rapporter ces discours de la mère Poirier et à écrire cet humble nom comme un témoignage qu'il restait encore de braves gens dans ce qui avait été le doux pays de France. S'ils avaient osé se soulever tous, hommes et femmes, et faire bloc, qu'ils auraient eu vite raison des brigands au pouvoir, une poignée, et combien lâches, on l'a trop vu quand ils se sont trouvés devant Bonaparte. Mais en 93, les braves gens ne savaient que mourir et pardonner. La mère Poirier devait m'en donner aussitôt une preuve saisissante. « Qui était le maître de votre sœur ?» lui demandai-je, comme la carriole s'ébranlait. Je n'avais pas protesté contre le mot de « ci-devant ». Ce silence était le plus dangereux des aveux. De quoi m'eût-il servi de discuter avec la maraîchère ? J'étais tellement à sa merci. Mais c'était M. François, le curé de Morteau, répondit-elle. Et il est parti ? M'interrogeai-je. Ils l'ont arrêté, monsieur, et ils l'ont guillotiné. Madame de Fleury poussa un petit cri et elle se serra contre moi. La mère Poirier, préoccupée de bien diriger sa bête dans la nuit, enfin venue, ne remarqua pas ces deux signes d'une épouvante qu'elle augmenta en continuant. « Ils sont pourtant pas trop mauvais à Morteau, mais il y a Raillard. »« Qui est Raillard ? » demandai-je. « Oh, vous ne connaissez pas Raillard ? » reprit-elle. « C'est vrai, vous n'êtes pas du pays, mais on prétend qu'il fait tout ce qu'il veut, même à Paris. C'est le médecin où c'était, rectifia-t-elle. « Presque personne ne s'adresse plus à lui, on va chez M. Couturier. »« M. Raillard est le chef des Jacobins de Morteau, insistai-je. Il est le président du club. »« Alors pourquoi faites-vous comme si vous ne le connaissiez pas alors ?» dit-elle en se retournant. Et dans l'ombre, je vis poindre aux yeux de la paysanne une lueur aiguë de défiance. La sœur de la servante du curé guillotiné, soupçonnant d'espionnage un duc de Fleury, quel symbole d'une époque dont la plus triste caractéristique fut celle-là, les persécutés s'évitant les uns les autres. Cette impression ne se dissipa qu'après que nous eûmes franchi la porte de la petite ville et que Madame Poirier eut constaté, au tremblement presque convulsif de ma femme, que nous étions bien des fugitifs en proie aux affres d'un mortel danger. « Ma foi, madame, s'écria-t-elle ingénument, ça n'a pas l'air gracieux, mais ça m'a fait plaisir de sortir que vous aviez peur quand j'ai crié aux gardes, c'est mon cousin et ma cousine. S'ils savaient ce que je vous ai dit sur Ayard, ils m'enverraient rejoindre ce bon monsieur François. Eh, dame, j'ai un mari et deux enfants. » Et je voudrais bien voir avec eux de meilleurs temps. Mais nous approchons de chez ma sœur. Il la laisse tranquille, elle, parce qu'elle a été la sœur de l'aide défunte Madame Raillard. Rapport à ça, il l'a pas fait arrêter. Oh, ça a été un brave homme autrefois et savant. Ce sera le chagrin de cette mort qui lui aura troublé la cervelle et puis ses nouvelles idées. Il ne boit que de l'eau, cet homme-là. Il ne mange pas, il ne vit que dans ses livres. Il en a deux chambres toutes pleines, je vous demande un peu, tant savoir pour devenir si méchant. Attendez, monsieur, voyez Jeannot. Elle désignait son cheval du bout de son fouet. Il ne sait pas lire, lui, et il connaît tout ce qu'il a besoin de connaître. C'est la porte de ma sœur, voyez, il s'arrête tout seul. Je remue pas les guides. Oui, mon garçon, t'es arrivé. « Tu vas manger l'avoine dans un quart d'heure. » Ça avait été à mon tour de trembler. À travers ces propos naïfs, j'avais entrevu le type le plus redoutable des révolutionnaires d'alors et de tous les temps, le fanatique d'idées, honnête dans sa vie privée, délicat même et sensible. Le chagrin que ce raillard avait eu de son veuvage l'attestait. Et puis lorsqu'il s'agit de l'application de leur système d'idées, la vie humaine ne compte pas pour eux. Quant à expliquer par le souvenir de sa femme morte l'espèce de tolérance accordée par celui-ci à la servante de l'abbé François, cette hypothèse était bonne pour des simples d'esprit comme Madame Poirier. Il était bien plus probable que la maison de Mademoiselle Bouveron, ainsi s'appelait la vieille fille, servait de traquenard. Une surveillance un peu étroite devait suivre les allées et venues de tous les visiteurs. Je tiens à répéter que, ni à ce moment ni depuis, je n'ai admis une seconde que les deux demi-sœurs, c'était leur degré de parenté, eussent la moindre idée d'un pareil rôle. C'étaient deux loyales et pitoyables créatures. Dieu ait leurs âmes, et puissent-elles avoir reçu là-haut la récompense du bon samaritain. D'ailleurs, eussent-elles été des émissaires de la police jacobine, je n'avais pas le choix. Les souffrances aiguës dont ma femme s'était plainte sur le bord de la route s'étaient calmées au moment dans la voiture. L'accueil de Mademoiselle Bouveron, qui nous reçut comme si nous avions été réellement envoyés par M. François, avait paru lui rendre du courage. Cette veine ne dura pas. Madame Fleury ne fut pas plutôt assise au coin de l'âtre qu'elle recommença de gémir. Sa réponse à mes questions me convainquit que mon pressentiment ne m'avait pas trompé. C'était un accouchement avant terme qui se préparait, et sans doute cette nuit. J'expliquai mes craintes à notre hôtesse et je lui demandai l'adresse de M. Couturier. Je m'y rendis en personne. Je voulais voir de mes yeux à qui j'avais confié le soin de mettre au monde mon premier-né, peut-être un fils, l'héritier de mon nom. Je ne trouve pas de mots pour traduire l'émotion qui m'étreignit le cœur quand la porte du médecin se fut ouverte à mon coup de marteau. Je revois la rue montante et blanche de neige où se dressait ce logis du praticien de province. Je revois un pan de ciel apparu entre les toits et surtout j'entends l'accent d'une femme de charge qui ne se montrait pas, sans doute par prudence, et elle répondait à ma demande formulée dans le vocabulaire obligatoire. « Le citoyen Couturier n'est pas chez lui. « Mais quand rentrera-t-il » demandai-je. « Oh, pas avant demain, » reprit la voix. « Il est parti cet après-midi pour le Val d'Aor, voir un de ses clients qui est à la mort. Il le veillera toute la nuit. « Oui, mais il s'agit d'une malade qui ne peut pas attendre non plus. » « Ma femme est en mal d'enfant. Combien y a-t-il d'ici au Val d'Aon ? 8 lieues et demie. Oh, c'est pas la peine d'essayer. Il faut le cheval du docteur pour aller par des chemins comme cela, et la nuit encore, et puis il ne quitterait pas son malade. Il a remis toutes ses visites à demain pour se rendre libre. » « Mais alors à qui s'adresse-t-on dans les cas pressés ? Insistai-je. « Monsieur Couturier n'a donc personne pour le suppléer, et quand il y a lieu urgence et qu'il est absent, en cas de danger, encore une fois, à qui s'adresse-t-on ? « Ben, au citoyen Raillard, » répondit mon interlocutrice. La voix s'étouffait pour prononcer ce nom qui me glaça plus que la bise de cette nuit où j'étais sorti sans manteau. La servante était descendue de quelques marches. La lampe qu'elle élevait par-dessus sa tête sculptait ses traits avec un relief qui en accusait l'expression. Visiblement, elle était elle-même troublée jusqu'à l'âme à cette seule mention du terroriste. « Mais le citoyen Raillard n'exerce plus depuis 3 ans, continua-t-elle, mais il est convenu avec mon maître que dans les circonstances urgentes, on peut envoyer chez lui. » « Si vous attendez jusqu'à demain, le docteur Couturier sera revenu vers 9 heures. »« Mais jusqu'à demain, attendre jusqu'à demain, mais le pouvais-je ? Et si je ne le pouvais pas, que devenir ? Laisserais-je ma femme, ma chère femme, mourir peut-être devant moi, et avec elle l'enfant, notre enfant, sans avoir appelé le seul médecin qu'il eût à cette heure dans cette ville. Et l'appeler, c'était ce faux passeport montré à ses yeux d'inquisiteur, c'était des questions posées auxquelles il faudrait répondre. Au moindre soupçon, c'était l'arrestation et c'était la mort, pour moi certainement, pour Madame Fleury sans doute, et sans doute pour les deux humbles demi-sœurs dont l'une nous avait recueillis gisant sur la neige et dont l'autre nous logeait maintenant. Dévoré par cette inquiétude, de quelle course hâtive je redescendis vers le boulevard où habitait Mademoiselle Bouvron, et avec quelle angoisse je vis s'avancer la vieille fille au-devant de moi sur le pas de la porte. Et déjà elle m'interrogeait. « Oh, madame vient d'être bien mal, » disait-elle. « C'est pour cette nuit, j'en suis sûre. Vous n'amenez pas, monsieur Couturier ?» Et quand je lui ai expliqué le résultat de ma visite, « Oh, monsieur Garayard !» s'écria-t-elle en joignant ses mains avec un geste d'horreur. Elle répéta, « Oh, monsieur Rayard !»« Mais c'est lui qui a fait arrêter et guillotiner, monsieur François !»« Oh, monsieur, s'il sait seulement que vous êtes ici, vous et madame, vous êtes mort !» C'est sur ce cri de détresse que j'entrai dans la chambre où Henriette, couchée à présent dans un lit, me montra un visage où je lus l'agonie. Ses traits comme décomposés, son teint livide, la fixité hagarde de son regard, le clignotement de ses paupières, ses doigts crispés sur la couverture annonçaient l'imminence d'une de ces crises nerveuses dont s'accompagnent si souvent les accouchements prématurés. Elle me reconnut et me fit signe qu'elle ne pouvait pas parler. Son souffle était court, sa mâchoire contractée. Elle eut la force de prendre ma main qu'elle mit sur sa poitrine. Je sentais aux pulsations de son cœur, comme à la chaleur de ses doigts, que la fièvre la brûlait. Ma présence, pourtant, lui fit du bien. Les secousses dont ses membres étaient agités s'arrêtèrent pour quelques instants. Elle respira plus régulièrement et elle se retourna vers le mur comme si elle allait essayer de dormir. Après 10 minutes de ce faux sommeil, de nouveaux phénomènes se manifestèrent qui ne pouvaient plus laisser cette espérance d'une attente jusqu'au lendemain. Les convulsions reprenaient plus violentes. Elles se calmèrent encore pour revenir plus fortes chaque fois. La bonne Bouvron allait et venait entre sa cuisine et la chambre, me proposant tour à tour tous les remèdes que lui suggérait son expérience de commère de village. Son épouvante augmentait la mienne à cause d'un très petit détail, mais trop significatif. Évidemment, elle croyait que ma femme allait mourir, et elle continuait à ne pas même prononcer le nom de Rayard. C'était donc que, le connaissant, elle considérait comme inutile un appel à la pitié du révolutionnaire. Que pouvait-il arriver pourtant si je m'adressais à lui ? Qu'il me fit arrêter sur le champ comme suspect, que ma femme agonisa toute seule. Notre situation était bien terrible. Séparée, elle serait pire. Non, non, je ne devais pas courir ce risque plus effrayant que tout le reste. Et je répétais mon cri devant la rencontre avec Madame Poirier. Mais que faire ? Que faire ? Et c'est à ce moment, et dans l'intervalle d'une de ces crises de douleur aiguë, durant lesquelles mon ignorance et mon impuissance me désespéraient, qu'une idée abominable traversa ma pensée. Bon, je n'étais pas très croyant à cette époque. Comme la plupart des hommes de ma classe, j'avais été touché par l'esprit de scepticisme émané de Voltaire et de l'Encyclopédie. Je comprends aujourd'hui que j'ai subi là une de ces tentations, comme l'éternel ennemi, l'anticus hostis, dont parlent les pères, nous en inflige aux heures décisives de notre existence. J'avais posé mes pistolets sur une table quand j'étais revenu de mon inutile visite chez M. Couturier. Comme je m'accoudais pour prendre ma tête dans mes mains, le geste instinctif du désespoir, un de mes coups d'heurta une décrosse. J'eus un sursaut soudain de tout mon être. J'avais oublié que ces armes étaient là et chargées. Arrivé à l'extrémité du malheur, il y a toujours un moyen sûr de s'en affranchir. J'avais à ma portée de quoi faire taire cette plainte de bête blessée que poussait ma pauvre Henriette et qui dénonçait ses intolérables souffrances. De quoi faire taire aussi la plainte de mon cœur, cœur d'amoureux, cœur de français, car cette agonie de ma jeune femme dans cette maison inconnue, à quelques lieues de la frontière, après cette fuite du foyer ancestral, mais qu'était-ce, sinon un épisode de l'immense désastre public? Malgré tout, la nature a de ses énergies qui défient les craintes les plus justifiées. Malgré tout, un enfant pouvait naître. Pour quel sort? Destiné à quelle misère? Avec cette rapidité dans le raisonnement qui nous fait à de certaines minutes apercevoir d'un seul coup d'œil tout le passé et tout l'avenir, je vis cet enfant, si c'était un garçon, grandir dans l'exil, revenir dans son pays chargé du poids inutile d'un grand nom, sans fortune pour le soutenir, étranger à la France, issu de la Révolution, un émigré à l'intérieur. Et si c'était une fille, les difficultés ne seraient pas moindres. Que deviendrait-elle? Comment l'élever? Où? Pour quel mariage? Il avait pris un des pistolets, puis l'autre. Une petite pression sur une des gâchettes et cet enfant ne naissait pas, et sa mère cessait de souffrir. Une seconde pression sur la seconde gâchette et le malheureux homme qui avait fait la folie de se marier en pleine terreur se reposait lui aussi pour jamais. Et je dis tout haut, bref, cela vaut bien mieux. Une horrible volonté s'exprimait dans ce cri. Il faut que cette confession soit écrite, et je l'écris avec horreur, avec remords. Cette heure a été vraie, je l'ai vécue. Durant cette nuit du 24 au 25 décembre 1793, il y a eu un instant où j'ai été un assassin et un suicide. J'ai résolu de tuer ma femme et avec elle le fruit de notre mariage. J'ai résolu de me tuer. J'ai armé mes pistolets pour cela. J'en ai vérifié la charge et la pierre. Voilà pourquoi, mon fils, je veux que vous gardiez toujours auprès de vous ce tableau de piété dont Dieu s'est servi pour me sauver du plus hideux, du plus inexpiable des crimes. Je m'étais levé, cette résolution prise, car elle était prise. Je m'étais dit, « Oh, dans un quart d'heure j'agirai, je la tuerai, et je me tuerai ensuite. » Une espèce de tranquillité que je n'hésite plus à qualifier de diabolique avait succédé en moi à l'atroce agitation de tout à l'heure. La malade aussi traversait des moments moins agités. Elle avait cessé de gémir. Je pris la misérable chandelle qui éclairait cette scène de désespoir afin de revoir ses traits si chers une dernière fois. Comme je m'approchais du lit, la lumière porta sur une toile suspendue dans l'alcôve qui avait été celle du prêtre martyr. Cette toile était cette nativité que je vous lègue. Comment expliquer, sinon par une faveur providentielle, que je n'y eusse prêté aucune attention jusqu'alors, et que tout d'un coup, à cette place, j'ai regardé cette peinture, et que j'en sois demeuré si profondément saisi? J'ai dit que je n'avais pas gardé intacte la foi de mes premières années. Pourtant, je l'avais eue, et très fervente. Sans doute, j'avais aussi subi, à mon insu, l'influence de la piété de celle que je me préparais à assassiner par excès d'amour. Mais à quoi bon tenter d'expliquer un de ces retournements intimes de l'âme, aussi mystérieux qu'ils sont irréductibles? Entre le sujet traité par cette toile et l'épreuve que je traversais dans cet instant même, y avait une analogie trop frappante pour que je ne la sentisse pas. Et Marie enfanta son fils premier-né, elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je lus à mi-voix ces mots écrits sur le cadre et je me mis à songer. L'enfant dont la venue prochaine arrachait à ma femme ses gémissements, c'était lui aussi un premier-né. Nous aussi, ses parents, nous étions errants, sans place où nous reposer, obligés de nous contenter d'un asile de hasard. Je regardais de plus près la toile. Le peintre avait voulu qu'en levant les yeux, Joseph et Marie puissent reconnaître au-dessus du berceau de leur fils l'instrument de son futur supplice. La singulière idée qu'il avait eue de dessiner ainsi une croix sur le mur par l'ombre portée des barreaux n'aurait peut-être intéressé dans d'autres circonstances que ma curiosité. Mais remué comme j'étais dans les fibres les plus secrètes de ma personne, l'enseignement de ce symbole se révéla soudain à moi avec une force souveraine. Combien de temps passais-je ainsi à contempler tour à tour ce groupe des parents, le sauveur endormi, la silhouette de cette croix auprès de ce sommeil, je n'en sais rien. À les regarder, non, à écouter une voix échappée d'une bouche invisible et qui me disait « Ecce homo, voilà l'homme ». Auprès de toutes les naissances, il y a une menace, puisqu'auprès de toutes, il y a une certitude de mort, et que nous ne venons au monde dans la douleur que pour en sortir dans la douleur. Cette menace, ses parents l'acceptent. Ils sont agenouillés. Ils prient. Cet enfant l'accepte. Il dort. Les uns et les autres acceptent la vie avec ce qu'elle a d'inconnu et de redoutable, et pour ce qui la donne et pour ce qui la reçoit. Cette mère sera crucifiée dans la chair de son fils. Elle le sait et elle ne se révolte pas. Cet époux sera crucifié dans le cœur de son épouse. Il le sait, il ne se révolte pas. Cet enfant connaîtra les tortures de la plus cruelle agonie, la sueur de sang, l'abandon des amis, la trahison de Judas et son baiser, l'outrage de tout un peuple, les soufflets, les crachats, les clous dans les pieds, dans ses mains, l'éponge de fiel, le coup de lance. Son martyr est là, prédit sur ce mur, par ce jeu de lumière et d'ombre qui dessine cette croix. Il le sait, et il ne se révolte pas. Et toi, alors là, lâche, lâche que tu es. En rédigeant ces phrases à la distance de tant d'années, je me rends bien compte que je leur donne une précision qu'elles n'ont certes pas eue. Je suis très sûr, cependant, qu'elles expriment les pensées qui m'agitèrent, tandis que je regardais le tableau d'abord et revenu auprès du lit de ma femme. Je m'abandonnais à une méditation dont je sortis pour dire à mon hôtesse, brusquement, « Où habite Monsieur Raillard ? Je veux aller le chercher. »« Vous voulez aller chercher Monsieur Raillard ?» répéta la Bouvreau épouvantée. « Oh, mon bon monsieur, ne faites pas cela !» « Nous sommes morts, tous les trois, s'il sait que vous êtes ici, madame et vous, et que je vous cache. »« Mais où habite-t-il » insistai-je. « Ne voyez-vous pas que ma femme va mourir s'il ne vient pas de médecin ? Vous avez été si bonne pour nous, continuai-je, que je ne veux pas vous avoir mise en danger. Non, je dirais que je suis entré chez vous en vous menaçant. Et si je suis arrêté, vous trouverez là de quoi vous récompenser. » J'avais tiré de ma poche un des sachets où étaient cousus mes diamants. La bonne femme esquissa un geste de refus. À cette seconde, un cri plus aigu d'Henriette déchira l'air. « Je vais vous indiquer la maison de M. Raillard, » dit la vieille fille. « Si vous revenez pas, je ferai ce que je pourrai pour madame. C'est la nuit de Noël. » Et elle aussi, regardant du côté du tableau, elle ajouta naïvement, « La bonne mère et Monsieur François nous protégeront. »